Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, midi à Paris. Le journal présenté par Juliette Pietraszewski. Bonjour Juliette.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. À la une de cette édition, journée sous le signe des négociations. En Arabie Saoudite, Ukrainiens et Américains discutent d'un cessez-le-feu partiel avec la Russie en Ukraine. La Russie qui a été visée dans la nuit par plus de 330 drones ukrainiens. Tandis que Moscou a annoncé ce matin avoir repris plusieurs villages de la région russe de Koursk aux forces de Kiev. Le dossier de la rédaction ce midi reviendra sur le scandale du chlordécone aux Antilles. Plus de 1200 plaignants réclament une indemnisation au nom du préjudice d'anxiété. La Cour administrative d'appel rend sa décision aujourd'hui. Et puis votre reportage France, les ateliers d'auto-réparation de vélos se multiplient dans le pays à l'heure où les deux roues sont de plus en plus populaires. En Arabie Saoudite, un début de rencontre constructif entre l'Ukraine et les États-Unis. C'est ce qu'a salué il y a moins d'une heure le négociateur ukrainien et le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak. Les discussions à Riyad se poursuivent autour d'un potentiel cessez-le-feu partiel avec la Russie. Des discussions sur lesquelles plane le président américain Donald Trump. Plus tôt aujourd'hui, à quelques heures de ces pourparlers entre l'Ukraine et les États-Unis en Arabie Saoudite, la Russie a été visée dans la nuit par plus de 330 drones ukrainiens. C'est notamment dans la région de Moscou que cette attaque a eu lieu. Les régions de Bryansk et de Belgorod, frontalières de l'Ukraine, ont aussi été visées. C'est la plus importante attaque depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2021. Le bilan est monté à 3 morts. Du côté de Moscou, justement, la défense russe a annoncé ce matin avoir repris 12 villages de la région russe de Koursk aux forces ukrainiennes. Jean-Didier Revoin, notre correspondant à Moscou, est avec nous. Jean-Didier, ces déclarations de Moscou ont de quoi augmenter la pression sur Kiev au début de ces négociations de paix en Arabie Saoudite avec l'équipe constituée par Donald Trump.
Alors oui, progressivement, les forces russes reprennent à l'armée ukrainienne les territoires qu'elle avait conquis dans la zone frontalière de Koursk. L'offensive lancée par les forces russes en territoire ukrainien, et plus précisément dans la région de Soumy, à quelques dizaines de kilomètres de la Russie, semble porter ses fruits, dans la mesure où les soldats russes tentent de prendre à revers les troupes ukrainiennes dans le but de les isoler durant le territoire russe. L'objectif affiché par Moscou dès cette invasion ukrainienne en août dernier reste inchangé, repousser l'armée ukrainienne au-delà des frontières de la Russie. Et à l'heure où les pourparlers de paix se précisent, Moscou développe une énergie particulière pour parvenir à ses fins. La raison en est très simple. Le jour où Russes et Ukrainiens entreront dans le dur des pourparlers de paix, le Kremlin n'a aucune envie de faire des concessions à Kiev. Échanger des territoires russes contre des territoires ukrainiens serait un camouflet pour Vladimir Poutine. Voilà qui explique l'intensité des combats, les avancées des troupes russes afin d'asseoir en position de force la table de négociation lorsque le moment sera venu.
Notre correspondant Jean-Didier Revoin en direct de Moscou. Autre négociation aujourd'hui à Doha sur la poursuite du fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Une délégation israélienne est attendue pour des négociations indirectes avec le Hamas, juste après la coupure par Israël de l'unique ligne électrique qui fonctionnait encore à Gaza et qui alimentait la principale usine de dessalement d'eau du territoire. Le Hamas a dénoncé un chantage mesquin et inacceptable qui menace également la vie des otages. De son côté, l'autorité palestinienne a condamné une escalade dans le génocide de la population. Fin de citation. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Jordanie ont également condamné la décision d'Israël de couper cet approvisionnement en électricité, exhortant la communauté internationale à prendre des mesures. RFI, il est midi 3 à Paris et notre dossier dans ce journal s'intéresse au scandale du chlordécone aux Antilles. Ce pesticide hautement toxique, longtemps utilisé dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique, est de retour devant la justice. La Cour administrative d'appel de Paris doit en effet se prononcer ce mardi sur les demandes d'indemnisation au nom du préjudice d'anxiété de plus de 1200 plaignants. Sylvie Coffi, bonjour.
Bonjour.
Ce préjudice existe en droit du travail, mais aussi dans le cadre médical.
Oui, ce préjudice est un concept juridique qui permet à une personne exposée à une substance dangereuse ou à une situation à risque d'obtenir un dédommagement au nom de l'angoisse liée à la crainte de développer une maladie grave. Ce préjudice d'anxiété a été reconnu pour la première fois en France il y a 15 ans dans des affaires liées à l'amiante. Cette fibre, aux propriétés anti-isolante et anti-incendie utilisée pendant de nombreuses années dans la construction. Et plus récemment aussi dans l'affaire du Mediator. Ce médicament pouvant causer de graves problèmes cardiaques, le préjudice d'anxiété avait été reconnu à des plaignants car la prise du Mediator leur a imposé un suivi médical contraignant dans les 2 années après l'arrêt de la prescription.
Alors pourquoi ce préjudice est-il mis en avant dans l'affaire du chlordécone aux Antilles ?
Le chlordécone, souvenez-vous, c'est ce pesticide utilisé dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe entre 1972 et 1993 et désormais interdit. Il est considéré comme un perturbateur endocrinien et un cancérogène probable. Outre les dangers pour la santé, il a durablement contaminé l'eau et les sols. En 2022, le tribunal administratif a fait reconnu les négligences fautives de l'État qui, malgré l'interdiction d'utilisation, avait accordé des dérogations. En revanche, les demandes d'indemnisation pour préjudice d'anxiété avaient été rejetées en première instance.
Et que disent et qu'attendent surtout les plaignants, Sylvie ?
Alors, les quelques 1200 plaignants mettent en avant le fait que ce pesticide les a obligés, pour certains, à déménager pour fuir la contamination, pour d'autres, de surveiller de manière accrue leur alimentation pour éviter de développer des maladies plus graves, mais aussi la perte de proches liées à des cancers. Ils demandent réparation à l'État français à hauteur de 15 000 euros par personne. Or, selon le rapporteur, seul un petit nombre de requérants ayant été atteints d'un cancer de la prostate remplissent les conditions de préjudice d'anxiété, soit 9 personnes. Juliette, la décision de la Cour administrative d'appel de Paris est attendue cet après-midi.
C'était le dossier de Sylvie Coffi du service France de RFI. Merci beaucoup. Et avant de terminer ce journal, si vous êtes un adepte du deux roues, ça peut sans doute vous intéresser. Réparer soi-même son vélo, c'est une pratique qui se démocratise de plus en plus. C'est également plus économique, plus écologique. Eh bien, les ateliers d'auto-réparation se multiplient en France. Benoît Narbonne s'est rendu dans l'un d'entre eux, dans le 11e arrondissement de Paris.
Une vingtaine de vieux vélos entassés, des centaines de pièces d'occasion rangées par catégorie sur une étagère et des outils posés au mur. Dans l'atelier de la cyclette, tout est à disposition pour remettre à neuf son vélo. Margot Franquet est une employée de l'association. Elle n'est pas là pour réparer les vélos, mais pour aider à les réparer par soi-même.
Dans l'atelier, quand les adhérents viennent, les gens viennent, ils peuvent venir et en autonomie réparer leur vélo. S'ils n'ont pas besoin de nous, on n'a pas besoin d'aller les aider. Ils peuvent aussi nous appeler. Il y a pas mal de gens qui ont besoin d'aide en fait la première fois qu'ils viennent.
En échange d'une adhésion de 30 euros par an ou de 15 pour les étudiants, les cyclistes peuvent venir réparer eux-mêmes leurs deux roues en utilisant des pièces récupérées. Pour Margot, ils ont tout à gagner à savoir réviser eux-mêmes leur vélo.
Ouais, la réparation d'un vélo, quand on apprend à le faire soi-même, ça a un intérêt hyper pédagogique, on sait ce qui se passe dessus. Un intérêt économique, c'est imbattable, on ne peut pas avoir moins cher que sa propre main-d'œuvre. Et les pièces détachées aussi, elles sont à des prix imbattables puisqu'elles sont à prix libre.
Les cheveux attachés à la va-vite, Agnessa, 23 ans, est une cycliste aguerrie. Elle possède 3 vélos différents et vient modifier celui qui lui sert pour ses trajets en ville, un vieux vélo de course orange fluo.
Il est un tout petit peu trop grand, donc j'essaye de voir qu'est-ce que je peux modifier pour faire en sorte que ça soit confortable.
Elle endosse un des bleus de travail en libre accès et retrousse ses lignes.
Ouais, c'est écologique, économique, mais c'est aussi parce que c'est gratifiant d'apprendre à connaître son vélo et savoir le réparer. La première fois que j'ai changé une roue, je me suis sentie ultra forte. Ça me paraissait ultra dur et en fait c'était assez facile. Et puis en fait là, ça nous permet d'avoir plein d'outils, d'avoir plein de conseils différents et c'est assez cool quoi.
Une autre activité de l'atelier, la récupération de vieux vélos abandonnés ou abîmés. Marc est un stagiaire de la cyclette, il examine l'un d'entre eux.
C'est un vélo qu'on pourrait soit remonter et le mettre à la vente, soit le mettre au démontage pour récupérer les pièces. Donc pour s'assurer de sa destination un peu, on teste la potence, par exemple la tige de selle, qui là est encore bloquée. Ce vélo pourrait être à remonter.
Si le vélo peut être remis en état, il sera ensuite proposé à prix cassé aux adhérents de l'atelier ou utilisé pour des sorties organisées avec d'autres associations. En France, le réseau L'Heureux Cyclage recense près de 538 ateliers d'autoréparation sur tout le territoire.
Ouais, c'est trop bien. Merci.
sur cerveau.
C'est un reportage à retrouver sur notre site internet RFI.fr. En France, toujours dans l'actualité politique, l'Assemblée nationale devrait lancer un appel au gouvernement ce mardi, celui d'ouvrir les cahiers du grand débat national lancé pendant la crise des Gilets jaunes. Un débat parlementaire qui a abouti au recueil de 19 000 cahiers citoyens. C'est un sujet qui peut permettre de réparer un petit peu la fracture démocratique dans notre pays, a déclaré une députée écologiste de la Drôme, Marie Pochon. RFI, il est midi 10 à Paris. Merci de nous écouter. Tout de suite, c'est Grand Reportage.